Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, bienvenue si vous nous rejoignez, comme tous les jours RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix, nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne. Où que vous soyez à travers le monde, appelez-nous, rejoignez-nous, venez commenter les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, africaine, internationale. Je vous cache pas qu'à quelques heures de la première affiche des quarts de finale de la Coupe du Monde de football et ce match Uruguay-France, vous êtes nombreux évidemment à souhaiter nous livrer vos pronostics, à nous parler des atouts mais aussi des faiblesses de l'équipe de France, les atouts et les faiblesses évidemment des Uruguayens. On y reviendra donc dans 30 minutes, mais il y a d'autres sujets qui vous ont marqué, on en profitera évidemment pour vous donner la parole. Mais d'abord, à cette heure-ci, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction de RFI, et là aussi, on n'échappera pas des questions forcément sur ce fameux match Uruguay-France. Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI, est à mes côtés. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous êtes prêt pour cette journée, j'ai envie de dire marathon ?
Absolument. Et je serai d'ailleurs en studio en compagnie de nos amis qui sont à Nizhny Novgorod pour les accompagner dans cette retransmission.
Alors, première retransmission, Catherine Potel le disait à l'instant dans le journal, 14h temps universel, Uruguay-France, à suivre évidemment en intégralité sur les antennes africaines de RFI avec les commentaires de Christophe Jousset et d'Antoine Grenier. Et ce vendredi est particulièrement alléchant puisque un peu plus tard dans la journée, à 18h temps universel, on aura une belle affiche Brésil-Belgique avec Hugo Moissonnier et Echo El Ciorramalo.
Une affiche qu'on suivra avec d'autant plus d'intérêt que si la France gagne, cette affiche désignera l'adversaire pour la demi-finale.
Alors justement, des questions sur cette équipe de France et cette équipe uruguayenne. Bonjour Merveille.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes à Goma en République démocratique du Congo, nous vous écoutons.
Sûrement, une question par rapport à l'équipe de l'Uruguay. L'Uruguay a une meilleure défense avec seulement un petit lien qui est face au Portugal. Quelles sont les stratégies, surtout offensives, que compte mettre en place Didier Deschamps afin de percer cette défense uruguayenne?
Ah oui, la défense uruguayenne. Il va falloir, Alejandro Valente, pour les Bleus franchir. Merveille parlait de défense, mais parlons d'un mur, d'une muraille uruguayenne tout à l'heure.
Oui, parce qu'en fait, la charnière centrale de la défense uruguayenne est composée de Jiménez et Godín. Ce sont exactement la même charnière qu'à l'Atlético Madrid, qui est un club réputé par la qualité de son organisation défensive. Après, il y a des latéraux qui sont quand même très complémentaires, et puis un milieu de terrain qui est très actif dans la récupération. Donc, on peut s'imaginer qu'il y aura peu d'espace. Donc, ce sera pas du tout un scénario comme le match contre l'Argentine. Alors, il y a aussi un changement par rapport à l'équipe de France, puisque c'est sûrement Tolisso qui va remplacer Matuidi, qui est suspendu. Mais voilà, la solution pour les Français sera de jouer avec de la vitesse, avec des petits décalages, avec Griezmann qui essayera de s'infiltrer entre les lignes. Il connaît très bien Jiménez et Godín, puisqu'ils
jouent ensemble à l'Atlético, oui.
Évidemment, on compte beaucoup sur Mbappé, sur sa qualité de percussion, sur sa vitesse, même s'il n'aura pas les grands espaces dont il a pu profiter contre l'équipe d'Argentine.
Et Giroud.
Et puis les jeux de tête de Giroud, parce que les coups francs, ça peut être une solution. On a vu que le Portugal a marqué justement sur un corner lors du match précédent. C'est le seul but que l'Uruguay a encaissé jusqu'à présent. Donc l'équipe de France a beaucoup travaillé aussi les séquences à balles arrêtées.
Ouais. Le dernier but français contre l'Uruguay remonte à 1985.
Absolument, c'était ici en France au Parc des Princes. La France n'a pas beaucoup marqué. Elle a gagné une seule fois, c'est justement en 85 sur 8 confrontations. C'est la seule victoire. En fait, la plupart des France Uruguay, ça termine par un 0-0.
Oui.
Et donc,
Est-ce qu'on peut s'attendre, parce qu'on fait évidemment mousser ce match qui est très attendu par l'ensemble des supporters français, mais est-ce qu'on ne risque pas tout de même d'assister à un match soporifique ?
Oui,
quand on regarde les matchs entre la France et l'Uruguay, vous le disiez à l'instant, ils se terminent bien souvent par un match nul 0-0.
Oui, sauf qu'aucun match n'est écrit à l'avance et les scénarios peuvent toujours surprendre. Évidemment, l'Uruguay, qui en plus est privé d'Edinson Cavani, va forcément miser plutôt sur sa défense que sur sa qualité offensive, même si Luis Suarez est toujours en danger, qu'il a déjà marqué contre l'équipe de France. Mais voilà, c'est un match qui risque d'être assez fermé, sauf si la France se marque vite et que ça oblige l'Uruguay à sortir du bois.
Ce serait bien. Merveille, vous aviez une dernière question?
Oui, ça concernait Edinson Cavani, qui était, nous l'avons vu, sorti sur blessure face au Portugal après ce précieux doublé qualificatif. Il a réapparu hier sur la piste, mais il n'a fait que des petites courses. Cavani a-t-il encore des chances d'être aligné face au but?
Alors, on vous entend très mal, Merveille, vous êtes peut-être à l'intérieur d'une maison, ça résonne, et en plus le réseau téléphone n'est jamais très bon avec Goma, mais Alejandro Valente, c'est la question que tout le monde se pose, on sait que Cavani ne sera pas titulaire, mais sera-t-il à un moment donné sur le terrain?
Écoutez, l'entraînement d'hier laisse un petit espoir qu'il soit sur le banc de touche et qu'il puisse éventuellement venir prêter main forte à Luis Suarez si jamais le scénario du match le rendait nécessaire. C'est une blessure qui requiert de la prudence car le faire jouer trop vite pourrait aggraver son problème au mollet.
Et j'imagine que les propriétaires, les responsables du PSG font pression sur la fédération uruguayenne pour ne pas trop forcer Cavani.
Ils n'ont pas besoin de faire pression. Je pense que Cavani est un professionnel, il est conscient des risques qu'il encourt. Donc voilà, je pense qu'on ne le verra pas, sauf si à une fin de match, l'Uruguay doit remonter un but et qu'on a besoin de mettre à la pression. Mais sinon, je pense que l'idée de Tabarès est de préserver son joueur pour une éventuelle demi-finale.
Ouais, Cavani, auteur des deux buts contre le Portugal, et rappelons-le, il est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Autre question au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Rabiou.
Bonjour Juan et bonjour Alejandro Valente, à tout le service d'Esport de RFI.
Merci beaucoup.
On vous écoute, vous êtes au Burkina Faso.
Oui, exactement, je suis en regard de vous. Mm-hmm. Bien, voilà, l'équipe d'Uruguay qui en a remporté que deux Coupes du Monde en 1930 et en 1950 se retrouve avec 4 étoiles sur leur maillot. Alors Juan, j'aimerais savoir pourquoi et quelle autre équipe se retrouve dans le même cas que l'Uruguay.
Alors, pourquoi l'Uruguay, qui n'a remporté que 2 Coupes du Monde, se retrouve avec 4 étoiles sur le maillot, Alejandro?
Alors, c'est très simple. Vous savez, la Coupe du Monde a été créée en 1930. L'Uruguay en a remporté la première. Mm-hmm. Donc, avant la Coupe du Monde, le tournoi des références était les tournois olympiques, alors qui existaient depuis les débuts, mais surtout depuis 1924, puisque c'est là que les équipes sud-américaines entrent dans le tournoi olympique. Donc, pour beaucoup, ces deux éditions olympiques 1924 et 1928 ont été des pré-Coupes du Monde. Enfin, c'était l'équivalent de la Coupe du Monde puisque la Coupe du Monde n'existait pas. Et c'est l'Uruguay qui a remporté ces deux éditions. D'ailleurs, si vous allez au Stade Centenario à Montevideo, vous verrez que les deux tribunes principales portent le nom des deux villes où l'Uruguay a remporté ces deux tournois olympiques, Colombes d'un côté et Amsterdam de l'autre. Donc pour eux, c'était deux équivalents Coupe du Monde, ces tournois olympiques.
Et ça ne pose pas de problème à la FIFA?
Ah si, la FIFA ne le reconnaît pas, mais ça ne les empêche pas de mettre les étoiles, ils ont des raisons de le faire. Et c'est pas absurde, mais c'est pas de vraies Coupes du Monde.
Bien sûr.
Pour eux, dans leur cœur, ils ont gagné 4 Coupes du Monde et ils veulent en remporter une 5e.
Et l'Uruguay, le seul pays à afficher sur son maillot ses sacres olympiques
ou... Oui, parce que disons qu'avant 1924, on ne pouvait pas considérer ça comme l'équivalent d'une Coupe du Monde puisqu'il n'y avait que des équipes européennes. Et après 1930, lors de la création de la Coupe du Monde, la FIFA a toujours fait en sorte que le tournoi olympique soit moins important et donc soit réservé par exemple à des joueurs d'une certaine limite d'âge ou des joueurs non professionnels. Enfin, selon le temps, ça a varié, mais en tout cas, ça n'a jamais été la même chose.
Rabiot, a-t-on répondu à votre question?
Très bien, merci Juan et bonne chance à l'équipe des France.
Merci de vos encouragements pour les Bleus. On remercie Alejandro Valente.
Bah, merci à vous.
Qu'on libère et à qui nous souhaitons évidemment une bonne journée de football. On vous retrouve à l'antenne à partir de quelle heure, Alejandro?
À partir de 13h45, temps universel. Et puis, je vous rappelle, Radio Foot à 21h10, temps universel uniquement, puisque avec France Uruguay et l'éventuelle prolongation, on ne peut pas le faire dans l'après-midi.
Donc, prise d'antenne 13h45 TU, coup d'envoi du match Uruguay-France 14h TU. eu avec Christophe Jousset et Antoine Grenier au commentaire. Merci à vous Alejandro.
Merci et bonne journée.
Et on parlera évidemment de cette première affiche des quarts de finale de la Coupe du Monde de football dans 20 minutes maintenant dans la Libre Antenne, puisque vous êtes un certain nombre, je ne vais pas dire nombreux, mais si vous l'êtes, à souhaiter commenter l'avant-match Uruguay-France. 10h21 à Paris, vous nous appelez, vos questions 33 9 693 693 70. Bonjour Davy.
Bonjour Juan, bonjour à tout le monde.
Alors vous avez suivi sur RFI il y a quelques jours la libération de la ville de Derna en Libye et vous aviez des questions à nous poser.
Oui Juan, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé la libération de la ville de Derna, bastion islamique radicaux, juste après la reprise du croissant pétrolier. Mmh. Oui. Comment cette offensive s'est-elle déroulée? A-t-il eu le soutien extérieur? Et quelle est la réaction du gouvernement national à cette offensive?
Alors, Derna, ville côtière située à plus de 1000 km à l'est de Tripoli. Kader Abderrahim est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence à Sciences Po Paris, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Alors, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, a effectivement annoncé il y a quelques jours la libération de cette ville, la ville de Derna, saluant dans un discours diffusé à la télévision de une journée glorieuse. Expliquez-nous d'abord, Kader Abderrahim, en quoi cette ville est-elle stratégique?
Elle est stratégique et elle est importante pas seulement pour la Libye, mais surtout pour l'Égypte. Il faut rappeler que c'est une ville frontalière de l'Égypte. Et pour répondre complètement à votre question et à celle de l'auditeur, c'est l'Égypte qui, depuis quasiment le début de l'insurrection islamiste en Libye, soutient militairement et diplomatiquement le maréchal Haftar, avec également le soutien des Émirats Arabes Unis qui livrent des armes et qui apportent un soutien financier au maréchal Haftar. Et cette ville frontière de l'Égypte, évidemment, est un enjeu très important pour la stabilité de l'Égypte, qui elle-même est confrontée à une insurrection islamiste depuis le coup d'État du maréchal Sissi en 2014.
Mmh. Et quand vous dites que les Émirats Arabes Unis livrent des armes, effectivement, mais en violant un embargo des Nations Unies, puisque le maréchal Haftar ne cesse de dénoncer cet embargo imposé par l'ONU sur les armes.
Absolument. Il souhaiterait d'ailleurs recevoir des armes beaucoup plus sophistiquées, comme des missiles sol-sol ou des missiles solaires, que pour le moment, les Égyptiens ne peuvent pas se permettre de lui livrer, y compris via les Émirats, parce qu'il risquerait, il s'exposerait à des sanctions claires des Nations Unies. Mmh. Mais pour le moment, c'est un peu le bal des hypocrites. Tout le monde ferme les yeux sur ce qui se passe, parce qu'on cherche à ménager la chèvre et le chou, mais globalement, on peut dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, que l'homme fort de la Libye est devenu progressivement le maréchal Haftar et qui, dès le début, a toujours refusé d'accepter et de reconnaître la légitimité et l'autorité du Premier ministre qui, lui, est reconnu internationalement et qui siège à Tripoli, M. Fayez Sarraj.
D'où la question intéressante de Davy, qui nous demandait comment le gouvernement d'Union nationale, ce gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, réagit-il à la prise de Derna, puisque en prenant le contrôle de Derna, Haftar conforte encore un peu plus, on va dire, son pouvoir, son emprise sur l'Est de la Libye.
Oui, et sur l'Est, et un peu plus, peut-être qu'on parlera tout à l'heure du croissant pétrolier, mais il y a aussi des enjeux financiers, économiques pour la Libye. Mais voilà, le gouvernement central, officiellement adoubé par les Nations Unies et par la plupart des États qui la composent, est aujourd'hui dans une situation plutôt embarrassante. Donc, encore une fois, on ménage la chèvre et le chou, et M. Fayez Sarraj est contraint d'être un observateur de ce qui se déroule dans son pays, puisque le maréchal Haftar ne répond absolument pas ni aux injonctions, ni aux demandes du Premier ministre Fayez Sarraj. Il y a même eu des combats il y a 18 mois entre les armées régulières de Tripoli et celles du maréchal Haftar. Oui, aujourd'hui, effectivement, l'homme fort de la Libye, incontestablement, est le maréchal Haftar.
D'autant, et vous le disiez à l'instant, Kader Abderrahim, qu'il a récemment reconquis ce qu'on appelle le croissant pétrolier, le poumon de l'économie.
Absolument, et ça, évidemment, ça ajoute à ce pouvoir que progressivement il est en train d'installer avec beaucoup d'habileté, à la fois sur le plan diplomatique, en gagnant de plus en plus d'alliés et de soutien, mais également sur le plan militaire, en contrôlant maintenant quasiment 40% de la Libye et un peu plus de 30% de la Libye utile, où se trouvent aujourd'hui les champs pétroliers.
Bien, merci beaucoup Kader Abderrahim d'avoir été avec nous ce matin en direct et d'avoir répondu à Davy. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Daesh, Histoire, enjeux et pratiques de l'État islamique, publié aux éditions Erol. 33 9 693 693 70, vous nous appelez pour vos questions et vous nous appelez pour réagir à l'actualité. La Libre Antenne, ce sera dans un quart d'heure maintenant. Une dernière question, tiens, nous avons contacté le correspondant de RFI au Vatican. Bonjour Eric Sénanque.
Bonjour Juan.
Bienvenue et merci d'être avec nous ce matin. Une question pour vous, puisque Alassane a entendu sur nos antennes la création récente de nouveaux cardinaux par le pape François. Qui de mieux placé que vous, évidemment, pour répondre à nos auditeurs sur la vie au Vatican. Bonjour Alassane.
Oui, bonjour Monsieur Juan Gomez.
Vous êtes à Bamako, nous vous écoutons.
D'accord. J'aimerais savoir... quels sont les critères de création des cardinaux et quelle sera leur mission en tant que nouveaux cardinaux?
Alors, Eric Sénanque, on voit que depuis que le pape François est en fonction, il crée, puisque c'est la formule d'usage, hein, il crée de nombreux cardinaux, 59. J'ai vu que Benoît XVI, lui, en avait créé 47 en 8 ans, alors que le pape François, cela fait que 5 ans qu'il est en poste. Quels sont les critères exacts de création des cardinaux?
Eh bien d'abord, Juan, techniquement, un cardinal est créé par un décret du pape publié lors d'une réunion des cardinaux. Alors, il n'y a pas vraiment de règles définies, hein. Cela dépend du bon vouloir du pape lui-même, qui décide de créer des cardinaux pour les remercier, hein, de leur service rendu ou les encourager dans leur mission. C'est le cas des derniers consistoires, donc ordinaires, c'est-à-dire la cérémonie où sont créés les cardinaux et où François a donné la pourpre à plusieurs hommes venant de ces fameuses périphérie, un terme qu'il emploie souvent, des pays marqués par des situations difficiles, de pauvreté, de guerre, où souffrent aussi parfois les communautés chrétiennes. On pense à Haïti, la Birmanie, la Centrafrique, bien sûr, ou encore la Syrie, puisqu'il avait créé le nonce Zénari. À chaque fois, le pape François a voulu donner un visage moins romain à ce collège des cardinaux. Et puis, outre ce besoin d'universalité, le choix du pape se fait aussi sur quelques traditions. Alors, il y a des sièges cardinalis, des grands diocèses métropolitains, par exemple, comme Madrid ou Chicago, Mexico, Milan, mais aussi certains postes clés de la curie comme la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et la semaine dernière, son préfet, le cardinal Monseigneur Ladaria Ferrer, vient donc d'être créé cardinal.
Et leurs missions sont multiples?
Oui, leur mission, comme tous les cardinaux, c'est de faire le lien, hein, entre le Rome et le terrain, si l'on peut dire. Les cardinaux qui sont un peu les oreilles du pape sur les situations politiques, sociales et bien sûr ecclésiales de leur pays. Leur tâche est aussi également de prolonger la vision du pape François sur la mission de l'Église dans le monde, une mission qui s'oriente beaucoup vers les pauvres, hein. Il a créé cardinal son aumônier personnel. C'est pour moi l'occasion d'être la voix des sans-voix, a commenté le nouveau cardinal malgache, Désiré Tsarazane. Il est là aussi pour réconforter les communautés chrétiennes locales. Il a créé cardinal le chef de l'église chaldéenne en Irak, le cardinal Sacco, ou encore l'archevêque de Karachi au Pakistan. Et puis n'oublions pas, Juan, que 11 des 14 derniers cardinaux créés la semaine passée seront électeurs aussi en cas de conclave, c'est-à-dire qu'ils pourront choisir un nouveau pape.
Effectivement, c'est vrai qu'en créant des cardinaux, le pape prépare d'une certaine façon l'élection de son successeur. Alassane nous demandait hors antenne comment se faisait-il que les cardinaux africains étaient sous-représentés.
Bien, c'est une bonne question d'Alassane, mais il a raison, mais en même temps, on peut dire qu'il y a du progrès avec le pape François. Si on fait quelques statistiques, il y a actuellement en tout 225 cardinaux, dont 124 électeurs, hein, en cas de conclave, et parmi eux, 26 Africains, dont 16 ont le droit de vote, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 80 ans. Et malgré ce statut de minorité, la tendance est au dynamisme. François a créé 6 cardinaux africains en à peine 5 ans de pontificat, autant que Benoît XVI en 8 ans. Il a envoyé des signaux forts, hein. L'archevêque de Bangui, le cardinal Zapalenga, a été cardinal à peine 50 ans, soit le plus jeune cardinal. Le pape qui, faut-il le rappeler, regarde vraiment vers l'Afrique. Hein, on se souvient de son voyage historique à Bangui fin 2015 et son prochain voyage devrait le mener au Soudan du Sud.
Au Soudan du Sud, pas de date prévue pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup Eric Sénanque d'avoir été en direct du Vatican. Alassane, je vous souhaite une bonne journée. Restez tous à l'écoute de RFI. On revient dans 10 minutes pour la Libre Antenne.